Vous écoutez, on lit pour vous.
Travailleurs étrangers temporaires, de nouvelles protections insuffisantes? Un texte de Marine Ernoult, paru le 26 mars 2025 dans La Voix acadienne. 3 ans après son adoption, une nouvelle loi visant à renforcer la protection des travailleurs étrangers dans la province entrera enfin en vigueur en avril. Le texte est accueilli favorablement par tous les acteurs, mais certains mettent en doute son efficacité à empêcher les cas d'exploitation les plus graves. Après 3 ans d'attente, la première phase de la loi sur la protection des travailleurs étrangers temporaires entrera finalement en application le 1er avril prochain. Cette première phase obligera notamment les recruteurs à détenir un permis. Son obtention sera assujettie à certains critères et un dépôt de garantie de 10 000 $ sera exigé. Les recruteurs auront l'interdiction de facturer des milliers de dollars de frais aux travailleurs étrangers pour leurs services et la loi interdira certaines pratiques telles que la rétention de documents officiels, comme les passeports. L'Association des transformateurs de fruits de mer de l'Île-du-Prince-Édouard se félicite de cette entrée en vigueur. Nous y voyons un avantage. Il s'agit d'une garantie importante pour s'assurer que les recruteurs ne profitent pas des travailleurs, observe son directeur général, Bob Creed. C'est un pas dans la bonne direction qui aide vraiment à résoudre les problèmes liés au recrutement, reconnaît le coordonnateur du programme des travailleurs migrants à l'Institut Cooper, Ryan McRae. Mais cela ne va certainement pas donner aux travailleurs la protection totale dont ils ont besoin. Il s'interroge par ailleurs sur la lenteur du gouvernement provincial à finaliser la loi. Je trouve cela étrange et frustrant. C'est la première fois que je vois un texte prendre 3 ans pour être réglementé. À ses yeux, la loi provinciale ne s'attaque pas au cœur du problème, à savoir le système de permis de travail fermé géré par le gouvernement fédéral. Autrement dit, les migrants temporaires se voient délivrer un permis lié à un employeur donné et ne sont pas libres de quitter leur emploi. Ils sont incités à endurer des choses horribles. Si nous ne donnons pas aux gens un accès immédiat à la résidence permanente, tout le reste ne sera qu'une solution de fortune, insiste Ryan McRae. La meilleure façon de prévenir les abus est de garantir la mobilité du travail. Un avis que partage la professeure à l'École de travail social de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, Catherine Bryan. En l'absence d'une véritable possibilité de transition vers la résidence permanente, les types de protection actuellement proposés n'auront qu'une portée limitée. Bob Creed croit, de son côté, que beaucoup de travailleurs temporaires de l'industrie saisonnière ne souhaitent pas immigrer définitivement au Canada. Dans de nombreux cas, nous aidons ceux qui veulent obtenir la résidence permanente. Mais la plupart ont leur famille, leur maison dans leur pays d'origine, et ils veulent souvent y retourner, assure-t-il. Pour Catherine Bryan, il n'en reste pas moins que les permis fermés créent un environnement où les travailleurs sont plus susceptibles de subir de mauvais traitements. Ryan McRae rappelle à cet égard qu'il existe des rapports assez crédibles selon lesquelles des travailleurs étrangers temporaires sont exploités dans la province, y compris sexuellement. Ils sont incités à endurer des choses horribles parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils peuvent conserver leur statut et continuer à subvenir aux besoins de leur famille restée au pays, relève le coordonnateur. Il évoque un immense pouvoir de l'employeur qui contrôle l'accès au transport, au logement, détermine qui sera réembauché l'année suivante. Le Sénat réclame la fin des permis fermés. Nous apprécions nos travailleurs temporaires et nous reconnaissons qu'ils sont la clé de notre succès. Ils bénéficient, à ce titre, des mêmes normes de protection que le reste de la population canadienne, se défend Bob Creed. S'il y a des situations qui ne sont pas correctes, nous nous réjouissons de pouvoir les corriger et les éliminer, poursuit le responsable. Dans un rapport paru au printemps dernier, le Sénat du Canada recommandait lui aussi l'abolition des permis de travail fermés d'ici 3 ans. En revanche, les sénateurs demandaient au gouvernement d'explorer la faisabilité de permis de travail liés à des secteurs et à des régions plutôt qu'à des employeurs. Une proposition à laquelle n'adhère pas l'Institut Cooper. Ça ne fonctionne pas, car les employeurs se connaissent tous à l'île, affirme Ryan McCrae. Si une personne veut fuir une situation abusive, son patron ira en parler à d'autres et il sera difficile pour cette personne de trouver un emploi ailleurs dans le même secteur. En plus de la résidence permanente, Catherine Bryan réclame également des mécanismes qui permettraient aux travailleurs de faire part de leurs préoccupations en toute sécurité, sans avoir peur d'être licenciés. Elle souhaite, par ailleurs, la création de véritables recours devant la justice pour celles et ceux qui sont maltraités par leur patron. En attendant, le site Internet de la province indique que la deuxième phase de la loi introduira un registre des employeurs et des sanctions administratives, mais le site ne mentionne aucun calendrier de mise en œuvre. C'était « Travailleurs étrangers temporaires, de nouvelles protections insuffisantes? » Un texte de Marine Ernault, paru le 26 mars 2025 dans La Voix acadienne.
Consommer québécois. Vraiment? Un texte de Caroline Monpetit paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir. Andréane Lucier trône dans son kiosque du marché Jean Talon devant un assortiment d'appétissantes tomates ancestrales que son frère fait pousser en serre au Québec. Ce sont les meilleures tomates du marché, dit Louis Gagnon, un fidèle client qui lui en achète un sac. Ça goûte les tomates d'été en hiver. Les Lucier produisent des tomates de serre et du sirop d'érable, tandis que le conjoint d'Andréane cultive des pommes de terre qu'il écoule notamment sur le marché américain. Ces pommes de terre seront donc forcément touchées par les tarifs douaniers annoncés. « Je ne suis pas inquiète, » dit-elle, « mais je sais qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire, des solutions à trouver. » Pour l'instant, 75% des produits qu'Andréane Lucier vend au marché Jean Talon proviennent du Québec et du Mexique, et le quart provient des États-Unis. C'est le cas des haricots, par exemple, qu'il est difficile de faire pousser en serre en hiver. Ça ne serait pas nécessairement plus cher de faire venir des haricots du Mexique, mais il faudrait que je cherche, je suis tellement habitué d'avoir des légumes des États-Unis en hiver. Il va falloir que je creuse. Reste que les produits du Mexique sont plus coûteux sur le plan environnemental à importer parce qu'ils arrivent de plus loin. Bruno Cordeau, de la ferme Printemps Vivace, produit des patates douces biologiques, des radis aux formes et aux noms méconnus, radis melon, radis ninja, radis daikon, des fleurs vivaces, du blé, du maïs et du soya. Toute sa production est écoulée au Canada, mais les racines de ses patates douces, il en produit 1 million de livres par année, proviennent annuellement des États-Unis. On va survivre. La meilleure solution serait de consommer un maximum de produits québécois, dit Andréane Lucier. Évidemment, cela pose certains défis de diversité, mais c'est fou comment, tranquillement, on arrive à produire toutes sortes de choses. J'ai du gingembre du Québec, des fraises de serre du Québec. On va survivre. De plus en plus de consommateurs dans les supermarchés québécois recherchent la provenance des aliments et évitent les produits américains. Cette semaine, la chaîne d'alimentation Métro a ajouté des étiquettes pointant les produits d'origine canadienne, en plus de celles indiquant les produits québécois. Matt Hulp, qui y fait ses emplettes, est américain. Il vit au Canada depuis 2 ans et demi. Fatigué notamment de la très grande polarisation politique et de l'insécurité régnant dans son pays, il espère obtenir la résidence permanente pour lui et sa famille de 2 enfants. « Je me sens honteux et embarrassé d'être américain », dit-il d'entrée de jeu. « J'ai commencé à regarder de près la provenance des produits. » J'essaie d'éviter la provenance américaine et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé pas mal tout ce dont j'ai eu besoin. Chez Metro et Super C, les chaînes d'approvisionnement n'ont pas encore été modifiées pour exclure des produits américains. Nos équipes responsables des achats sont constamment à la recherche des meilleurs produits dans le monde entier. Elles vont continuer à prioriser les produits locaux québécois et canadiens dans la mesure du possible, tout en veillant à ce que les clients trouvent les produits qu'ils recherchent en fonction de leur valeur, de leur budget et de leurs préférences, répond Geneviève Grégoire, chef des communications chez Métro. Au marché Jean Talon, Andréane confirme que les clients lui demandent de plus en plus de produits qui ne proviennent pas des États-Unis. De plus en plus de clients refusent d'acheter des produits américains, constate-t-elle. Mais il y a des alternatives intéressantes. À l'Association Restauration Québec, on suit aussi le dossier de près. Il y a aussi la problématique de la quantité disponible, dit la directrice des relations publiques, Dominique Tremblay. Il y a certaines sortes de laitues qui poussent en serre au Québec, mais si la restauration les achète, il n'y en aura plus en épicerie. Ce sont des ajustements qui vont être à faire selon les options disponibles. C'était « Consommer québécois, vraiment ?» Un texte de Caroline Montpetit, paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir.
Entre ombre et lumière, les romans policiers francophones du Canada, un texte d'Alexandra Gribowska, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires. Pour célébrer la Journée québécoise de la francophonie canadienne du 22 mars, le Centre de la francophonie des Amériques, avec l'appui du Regroupement des éditeurs franco-canadiens, vous invite à découvrir 3 polars et 1 roman à suspense jeunesse. Les intrigues se déroulent dans le petit village de Minota au Manitoba, à Toronto et à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Elles vous tiendront en haleine, tout en vous invitant à explorer les contextes socioculturels de différentes communautés francophones. Pierre-Luc Bélanger, Ontario. Auteur franco-ontarien, Pierre-Luc Bélanger est passionné par les livres depuis l'enfance. Lauréat du prix Champlain, il a publié de nombreux romans remarqués par la critique. Pédagogue, il connaît les adolescents qu'il place au premier plan dans ses écrits. Le captif du grenier est son premier roman à suspense jeunesse, publié aux éditions Mouton d'or Acadie, Nouveau-Brunswick, dans la collection Mouton noir Acadie en 2023.
Dans Le captif du grenier, les quatre jeunes protagonistes se démarquent par leur curiosité et leur esprit d'aventure, loin des écrans et de la technologie. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer ces personnages qui, malgré les tentations de la vie moderne, se consacrent pleinement à résoudre le mystère d'Otis de manière traditionnelle, à la façon de véritables détectives? Les tâches manuelles sont mises de l'avant durant l'enquête et les rénovations. Les personnages découvrent des preuves d'un captif enchaîné dans le grenier, c'est du réel, des reliques d'une autre époque où l'on ne pouvait pas documenter dans les médias sociaux. Il y a quelque chose de particulier, voire d'humain, de parcourir de vieilles photos, d'ouvrir des boîtes, de parler à des aînés. Otis, ce jeune garçon ostracisé par sa communauté, qui passe 944 jours dans le grenier, semble incarner une forme de souffrance et d'isolement. Peut-on le voir comme un personnage symbolique, annonciateur des dilemmes que d'autres personnages rencontrent dans le roman? Otis et Yannick sont tous les deux des souffre-douleurs ayant subi les foudres de membres de leur entourage, bien que leur traumatisme se passe à des époques différentes. Je désirais montrer une résilience, de l'espoir, de l'amour et surtout accentuer qu'il y a davantage de bonnes personnes dans le roman et dans le monde. Le captif du grenier se distingue par sa documentation soignée, avec la carte géographique de Terre-Neuve en début de récit, ainsi que par l'évocation des anciennes traditions. Pourriez-vous nous parler du Mummer et du rôle que cette tradition joue dans l'évolution des personnages? Le Mummer est une tradition créée pour s'amuser. Les Terre-Neuviens revêtaient des costumes bigarrés et faisaient la tournée des voisins où l'on tentait de deviner l'identité des gens costumés. Malheureusement, des gens ont profité du couvert de l'anonymat pour poser des gestes qui ont nui aux festivités. Depuis quelque temps, cette ancienne tradition culturelle fait son retour. Susan Payne, Ontario. Susan Payne est née à Balmoral, au Nouveau-Brunswick, et elle vit à Espanola, en Ontario. Sa trilogie de romans policiers, Pour toi, mon amour pour toujours, aux éditions Personnages, a reçu un accueil chaleureux à la fois du public et des critiques. Modus Operandi est finaliste au prix Arthur Ellis, catégorie Best French Crime Book 2023. Modus Operandi présente l'écriture d'un autre roman policier, ce qui crée un jeu de miroir fascinant. Est-ce que ce procédé vous a permis de développer de manière différente le portrait du personnage du tueur en série et ses motivations? Le procédé utilisé pour dépeindre le personnage du tueur m'a permis d'exploiter et de mettre en lumière la double vie que mènent les personnes atteintes d'un trouble dissociatif de l'identité, appelé autrefois trouble de personnalité multiple. Sans le savoir, ceux qui en souffrent mènent plusieurs vies très différentes les unes des autres, et chaque épisode est, on ne peut plus, réel pour eux. Toutefois, dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'une personne malade, et non d'un tueur en série conscient de ses agissements, qui pose des gestes délibérés pour ensuite se déguiser en gentil, et mener une vie en apparence normale en cachant ses activités meurtrières. Le tueur n'est pas conscient de son état et n'a aucun contrôle sur les actions de ses différentes personnalités. Il ne sait pas qu'il est un tueur en série. Le jeune labrador Rollo joue un rôle clé dans la découverte des victimes, agissant presque comme un détective à sa manière. Qu'est-ce qui vous a poussé à introduire un tel personnage, à la fois attachant et surprenant, dans le cadre d'une enquête criminelle? J'ai créé le personnage de Rollo dans le but de détendre un peu l'atmosphère dans une histoire qui, je le savais, serait parfois lourde. Les chiots ont ce don de nous faire sourire lorsqu'ils découvrent le monde qui les entoure. Aussi, je me suis dit que ce serait préférable que ce soit un chien qui découvre les ossements plutôt qu'un jeune enfant ou même un adulte qui aurait pu être traumatisé par l'incident. Rollo, lui, ne sait pas ce qu'il a trouvé. Il n'en gardera donc aucune séquelle. Sauf peut-être celle de ne pas comprendre pourquoi on ne lui permet plus d'aller gambader dans la forêt. Vous écoutez, entre ombre et lumière, les romans policiers francophones du Canada, un texte d'Alexandra Gribowska, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires. Margot Joly, Manitoba. Née au Manitoba, Margot Joly est l'autrice de la trilogie « Le fruit de la haine » 2018, « Tu m'appartiens » 2021 et « L'innocent » 2023, édité par la Nouvelle Plume Saskatchewan. Un de ses poèmes, « Un village détruit », a été publié dans la revue « À ciel ouvert » 2023. Le caporal Sylvain Trudel de la GRC, un inspecteur méthodique et redouté, apparaît dans votre trilogie. Quels sont les dilemmes moraux et éthiques que Trudel rencontre tout au long de l'enquête criminelle dans L'innocent? Les deux dilemmes moraux et éthiques les plus importants que rencontre Trudel sont, premièrement, la stigmatisation des mères célibataires et de leurs enfants, de la part de l'Église et de la société en général, et deuxièmement, la doctrine de l'Église qui refuse aux parents l'inhumation de leurs enfants non baptisés à l'intérieur du cimetière paroissial parce qu'ils n'ont pas été lavés de la faute originelle. Le premier dilemme fournit à Trudel le mobile probable du crime, car une naissance hors mariage apporte honte à la mère et à ses proches, et certaines personnes seraient prêtes à tout faire pour sauver l'honneur de leur famille. Concernant le deuxième, la femme de Trudel vient de subir une fausse couche, et il n'y aura ni service religieux pour leur enfant, ni pierre tombale portant son nom, ce à quoi il ne peut rien. Alors, il se dévoue cœur et âme pour identifier l'innocent et le valoriser en le faisant ensevelir dans un endroit respectable, avec une stèle sur laquelle est gravé son nom. Comment la découverte du squelette du bébé enseveli sous un tas de fumier résonne-t-elle avec d'autres thèmes de votre roman? Un bébé nouveau-né symbolise l'innocence, sauf aux yeux de l'Église qui le condamne au limbe, s'il n'est pas baptisé, et qui le perçoit comme le fruit du péché, s'il est né hors mariage. Le fait que le squelette a été enseveli sous un tas de fumier symbolise ce manque de respect pour l'enfant né à l'encontre des dogmes de l'Église. Trudel tente de résoudre le crime afin d'apporter justice au petit innocent. Nous, les Franco-Manitobains, avons pris plus de temps que les Québécois à nous soustraire de l'influence de l'Église. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres étaient en majorité originaires du Québec. Les miens sont atterrés sur le sol québécois vers le milieu des années 1600 et ensuite ils ont déménagé au Manitoba vers la fin du 19e siècle. Claude Guillemin, Ontario. Auteur, concepteur, scénographe et metteur en scène, Claude Guillemin est cofondateur du théâtre La Tangente, une compagnie de création à Toronto. Wellsford, publié aux éditions Prise de parole, est son premier roman policier et a remporté le prix Jacques Maillet 2024, décerné par la Société du roman policier de Saint-Pacôme. Vous mêlez très habilement l'histoire personnelle et familiale de l'inspecteur Franck Duchesne, qui mène une enquête criminelle dans le quartier de son enfance. Comment cette dimension influence-t-elle ses actions et l'évolution du récit? L'histoire personnelle de Franck Duchesne est intimement liée à l'enquête. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il devra s'en retirer officiellement, ayant compris que les principaux intéressés sont d'anciens amis et des membres de sa propre famille. Franck poursuivra malgré tout l'enquête et c'est en découvrant la vérité sur son passé qu'il pourra résoudre le crime. Vous superposez habilement les événements de 2019 avec ceux entourant le meurtre survenu à la fin de 1969, créant un écart de 50 ans dans la vie de Franck Duchesne. Quel rôle joue cette temporalité dans le développement de l'intrigue et dans l'évolution du personnage principal? À Toronto, dans les années 1960, la métropole connaissait déjà une croissance importante. Les baby-boomers fondaient des familles, la classe moyenne était en pleine effervescence et, contrairement à aujourd'hui, il y avait une véritable planification urbaine. Mais les temps ont changé. La ville vieillit mal et les souvenirs aussi. 50 ans plus tard, Franck comprendra que la mémoire est sélective et l'enquête le forcera à réévaluer sa perception des événements et des gens qui ont façonné son adolescence. Il est important de souligner la valeur documentaire de Welsford, qui évoque des événements historiques comme le lancement d'Apollo 11 en 1969. À mon avis, l'assassinat de Kennedy, le lancement d'Apollo 11, le 11 septembre, les guerres en Afghanistan, en Irak, la politique interventionniste américaine et maintenant l'ère de Trump sont des moments historiques plus marquants pour bien des Canadiens que ne pourraient l'être des événements remarquables de l'histoire canadienne. C'est un thème récurrent dans mon écriture. Dans Welsford, on retrouve cette même influence historique, alors que la guerre du Vietnam s'inscrit au cœur même de l'intrigue principale. C'était, entre ombre et lumière, les romans policiers francophones du Canada, un texte d'Alexandra Grybowska, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires.